Voilà, merci de cette invitation. Donc, je suis Christine Aldin-Meyer, je suis psychanalyste, maître des conférences et directrice de recherche à l'Université Paris-Diderot. Et j'ai la chance de participer et coordonner le groupe de travail santé et intelligence artificielle qui est en construction et qui est un groupe très sympathique et qui fonctionne d'une façon très intéressante. Donc aujourd'hui, on va vous présenter quelques éléments, évidemment, d'un sujet qui est très vaste. Mais bon, déjà pour donner une vue d'ensemble, je présenterai le sujet. Ensuite, je donnerai la parole à Marie-Pia Dorto, qui est médecin et qui va nous parler à partir de son point de vue médical, et Jean-Marc Détorne, qui va nous parler ensuite, surtout concernant les questions juridiques. Évidemment, c'est seulement quelques aperçus de réflexions que nous amenons dans ce groupe de travail. Il y a d'autres réflexions qui sont aussi présentes, mais qui, en très peu de temps, on ne pouvait pas tout aborder. Voilà. Donc, je commence. Donc, l'avènement de l'intelligence artificielle dans le champ de la santé, vous m'entendez bien là au fond ?
Oui.
Ça va ? L'avènement de l'intelligence artificielle dans le champ de la santé offre évidemment des possibilités indéniables. Perfectionnement de l'interprétation des images, classification avec plus de précision de l'évolution d'une maladie, prédiction de la réponse au traitement, réalisation de la collecte des données dites en vie réelle, constitution d'un recueil de données inédit et bien d'autres choses encore sont prévues. Ainsi, elle nous donne la possibilité de diagnostic à distance, elle permet l'autosurveillance des malades par les malades eux-mêmes et elle autorise la télémédecine. Qu'est-ce que c'est donc la télémédecine ? Cette notion couvre un champ de plus en plus vaste qu'on appelle aujourd'hui la e-santé ou la télésanté, directement issue du terme anglo-saxon. Quelle est sa définition ? Selon le ministère de la Santé, la définition est assez claire. La télémédecine est une pratique médicale qui met en rapport entre eux, par la voie des nouvelles technologies, le patient et un ou plusieurs professionnels de la santé, parmi lesquels au moins un professionnel médical. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer pour un patient à risque un suivi dans le cadre de la prévention ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes. Et enfin, d'effectuer une surveillance de l'état des patients. Selon le décret du 19 octobre 2010, existent 5 types d'interventions à distance pour les professionnels. Et dans ce décret, c'est bien clair aussi les conditions des mises en œuvre et aussi la prise en charge financière de ces actes. La première intervention, c'est la téléconsultation, c'est-à-dire un médecin donne une consultation à distance à un patient, lequel peut être assisté d'un professionnel de santé. La téléexpertise, c'est-à-dire un médecin sollicite à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères sur la base des informations médicales liées à la prise en charge du patient. La télésurveillance médicale, un médecin surveille et interprète à distance les paramètres médicaux d'un patient. La téléassistance médicale, un médecin assiste à distance un autre professionnel de santé au cours d'une réalisation d'un acte. Et la régulation médicale, les médecins des centres d'urgence établissent par téléphone un premier diagnostic. Évidemment, il est tout à fait pertinent donc d'impliquer l'intelligence artificielle et les questions de données dans le champ de la santé. Cependant, en faisant, la réflexion nécessite d'être menée jusqu'au bout de sa logique et donc d'affronter certains paradoxes. Parce que ces dispositifs produisent un changement de l'expérience intime du sujet avec lui-même, une modification du travail subjectif du sujet avec sa maladie, et par conséquent, ils interfèrent dans la façon dont la relation thérapeutique entre le patient et son médecin, et plus largement toute l'équipe soignante, va s'y nouer. La pratique clinique jusqu'à présent nous apprend que ces dispositifs sont tantôt un simple outil, tantôt un objet pouvant incarner plusieurs représentations à la fois conscientes et inconscientes pour les patients et pour les soignants. Quelques exemples de la pratique. Par exemple, certaines formes symptomatiques, comme par exemple la dépendance hypochondriaque à l'objet, c'est-à-dire le sujet va en permanence être tenté de surveiller son cœur, sa respiration, etc. Mais aussi d'autres formes d'addiction, d'autres formes de manifestations phobiques vis-à-vis de l'objet, pouvant parfois amener certains à être dans un rejet total de l'objet, ou alors d'autres patients qui peuvent, dans des situations de maladie, éprouver un sentiment d'abandon de la part de l'équipe médicale et donc produire des manifestations dépressives. Autrement dit, l'analyse des représentations, des usages et valeurs des acteurs est un volet essentiel pour la réflexion concernant ces questions de nouvelles technologies dans le champ de la santé. Alors, quelques axes de réflexion que nous avons déjà commencé à esquisser dans notre groupe de travail. Le premier, sur le plan technique, comment ces dispositifs s'adaptent au champ médical. Marie-Pia va parler très clairement de certains soucis. Comment la e-santé modifie-t-elle l'identité du patient et par conséquent son travail d'appropriation subjective de sa maladie? Comment la e-médecine aborde-t-elle la question de l'autonomie individuelle? Car en donnant autonomie et responsabilité au patient sur son état, elle collabore à un état de dépendance à ce nouveau dispositif. Comment les professionnels de la santé vont assurer leur rôle de soignant? C'est-à-dire quel va être l'impact dans leur pratique, mais aussi dans leur formation. Et dernier point, la maladie en étant un moment des vacillements identitaires et psychiques, où la présence de l'autre humain est essentielle, comment faire de ces outils des véritables supports de promotion du relationnel, et non des supports qui viennent déshumaniser la relation médicale. Cela pour vous dire qu'une réflexion interdisciplinaire urgente est nécessaire, et donc à la lumière des réflexions associant les sciences de l'ingénieur, la recherche clinique, la recherche médico-économique, la réflexion clinique et déontologique, la recherche en sciences humaines et sociales, et des premiers retours des expériences d'évaluation des objets connectés en santé amenés par certains participants du groupe de travail, il s'agit dans notre groupe de travail de s'interroger sur les modalités qui permettront de concilier le développement de ces outils et ses effets sur le sujet contemporain. Notre groupe de travail à présent compte avec 27 participants qui viennent de disciplines diverses. Voilà leur nom. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Notre objectif... Pardon ? Ah, pardon. Vous voulez que je revienne ? Non ? Je vous donnerai après. Exactement, plus clair. Alors, nos objectifs, aider à la structuration des projets portés par les participants du groupe de travail, coordonner des réseaux fédérant des recherches sur la santé et l'intelligence artificielle, et fournir des éléments permettant de faire évoluer le débat de la société sur la santé et l'intelligence artificielle. Nous avons déjà quelques publications et nous envisageons un colloque bientôt, je pense qu'en 2021, si tout va bien. Donc, je donne la parole à Marie-Pia. Alors, je change.
Bonjour à tous. Merci, Christina, de m'avoir proposé d'intervenir. Pour ce qui concerne ma partie, j'allais dire, je vais vous donner un point de vue très... prosaïque, pratico-pratique d'un médecin confronté à la santé connectée, à l'intelligence artificielle. Et s'il y a un message avec lequel j'aimerais que vous repartiez, c'est que l'évaluation est indispensable. Je ne vais pas revenir sur le déferlement des usages grand public de l'objet connecté, qui comporte à la fois des objets bien-être, ne serait-ce que votre téléphone portable, votre montre qui vous dit combien d'heures vous dormez, et puis des objets plus dispositifs médicaux, mais finalement une très nette prédominance des objets dits bien-être ou des objets intermédiaires, où le discours marketing qui est plaqué dessus est très ambigu en disant ça va aider à promouvoir votre santé. Et donc du coup, même si ces objets ne font pas l'objet habituellement d'une évaluation, enfin ces dispositifs ne sont habituellement pas évalués au sens de dispositifs médicaux, néanmoins il faudra sans doute que l'on s'attelle à cette tâche. Alors les attentes, elles sont immenses, et Christina l'a très bien dit, puisqu'il s'agit de favoriser l'accès aux soins, soutenir le virage de l'ambulatoire, contribuer à l'empouvoirment du patient, c'est-à-dire comment le patient s'approprie sa maladie et passer de l'observance à l'adhésion à un traitement, collecter des données en études en vie réelle, collecter des données massives et agréger des données multimodales qui constituent le socle en fait, de ce que l'on appelle la médecine 4P, c'est-à-dire participative, personnalisée, prédictive, préventive, et puis pour les tutelles, d'aider à la mise en place de nouveaux forfaits de soins qui prennent en compte ces nouvelles modalités de suivi. Alors pour autant, les questions sont immenses, elles sont complexes, elles sont multiples, puisqu'elles vont toucher, et on l'a évoqué en creux déjà très longuement hier et puis aujourd'hui avec les interventions précédentes, à la sécurité, la cybersécurité, la confidentialité, la pertinence, l'acceptabilité, l'éthique, et c'est tout l'apport des sciences humaines et sociales, à la fiabilité de la mesure, des algorithmes, et ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Et puis, est-ce que ces méthodes, ces nouvelles méthodes, offrent des intérêts pour le patient, pour le parcours patient, en termes, est-ce que ça va avoir un impact positif sur l'évolution d'une maladie donnée ? Et pour les tutelles, est-ce que ça va avoir un impact positif, médico-économique ? Et puis, quel est le cadre légal ? Quels sont les modèles économiques ? Alors, pour souligner la difficulté à laquelle on est confronté soignant dans cette volonté d'évaluation que nous souhaitons, je vais passer deux diapositives à vous expliquer la démarche de recherche biomédicale habituelle pour ce qui est du médicament. Et finalement, c'est une démarche qui est très linéaire et entre guillemets très facile, nonobstant évidemment les difficultés de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Mais on part d'une recherche fondamentale, puis translationnelle, puis clinique, puis médico-économique, avec... La dissection des mécanismes d'une maladie pour identifier des cibles qui permet d'identifier des molécules à tester. Et puis ensuite, on passe à l'essai, à proprement parler, phase 1, phase 2, phase 3, d'abord sur un groupe restreint de personnes saines, savoir si la molécule est toxique, pas toxique, puis ensuite sur un groupe restreint de malades, puis sur une large population de malades. Et puis une fois que l'effet bénéfique est validé, alors ça prend quelques années, mais la démarche est quand même très linéaire, le dossier est déposé devant la commission d'autorisation de mise sur le marché, et puis la commission européenne du médicament, et puis ensuite discuter avec le CEPS, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour remboursement. Dans un contexte d'objets connectés, on n'est plus du tout sur une démarche linéaire. D'abord, on n'est pas sur de l'innovation de molécules, mais sur des innovations technologiques qui vont concerner, par exemple, un brassard ou un bonnet ou un chausson ou une tétine. De l'innovation technologique dans les serveurs et les capacités de calcul, évidemment de l'innovation technologique sur l'intelligence artificielle et sur la façon dont toutes ces données sont boulinées, et puis une rupture, une révolution organisationnelle, puisque nous, soignants aujourd'hui, on reçoit de la donnée 24 heures sur 24, et donc nécessairement on est obligé de se réorganiser pour faire face de façon pertinente à cet afflux de données. Alors on l'a vu, les questions sont complexes, sont multiples. Comment est-ce qu'on y répond ? Eh bien, on est un peu désarmé, mais on essaye de se structurer pour y répondre. Et nous mettons en place, les uns et les autres, et en particulier à l'assistance publique au Poitou de Paris, des structures qui permettent une évaluation multidimensionnelle de la santé connectée, en structurant les process d'évaluation dans les différents champs. En essayant d'avoir un mode de fonctionnement le plus agile possible, parce que les technologies évoluent à toute vitesse, et les constantes de temps ne sont pas du tout les mêmes, puisqu'on l'a compris, la recherche clinique qui est indispensable, elle se fait sur le temps long, et le temps long en recherche clinique, c'est plusieurs années, et vous prononcez ce mot devant n'importe quelle start-up, et il tombe dans les pommes immédiatement. Donc on essaye d'avoir une évaluation qui soit agile, qui soit à la demande, qui soit adaptée au degré de maturation du système et qui soit rapide à mettre en œuvre. Alors on a mis sur pied une structure, une plateforme qui s'appelle le Digital Medical Hub, qui reprend un peu les différents champs dans quatre grands axes, qui sont des impératifs de sécurité et de fiabilité, des impératifs d'évaluation d'apport pour la prise en charge du parcours patient, une évaluation qui touche à l'aspect médico-économique, et puis enfin, évidemment, les sciences humaines et sociales, avec des interactions étroites avec les équipes qu'il faut. Par exemple, pour ce qui est des impératifs technologiques, la PHP a signé une convention avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques avec un prisme très cybersécurité. Est-ce que tel ou tel dispositif offre des garanties en termes de cybersécurité ? Ensuite, à l'intérieur de l'AP, on a des structures qui sont capables d'analyser tel ou tel dispositif en termes de marquage CE adapté à sa finalité et de respect du RGPD. Vous pourriez me dire, bon, est-ce que c'est vraiment utile ? La réponse est oui, je vous en donne un exemple. On ne va pas tout balayer, mais il y a un interne de pharmacie au semestre précédent qui a pris 62 objets connectés de 10 marques différentes et qui a repris tous les grands termes du RGPD. Et vous voyez en rouge tout ce qui n'est pas respecté. Voilà, et c'est des objets que vous utilisez tous les jours. Hein, c'est des objets qui sont déjà en vente. Il y a l'analyse éthique qui est faite par des thésards ou des post-docs qui travaillent sous la direction de Christina. Donc voilà, cette analyse-là, elle est importante. Pour ce qui est de la phase 2, qui est vraiment la fiabilité, la pertinence clinique, quand je parle de fiabilité, c'est vraiment du point de vue médical, de la métrologie clinique. Et cette question n'est pas du tout triviale. On s'en est aperçu, je vais vous donner quelques exemples, entre des balances connectées qui racontent n'importe quoi eu égard à la composition corporelle, ou bien, alors là, c'est quasi anecdotique, parce qu'après tout, ça n'est pas très important, sauf que ces balances connectées sont utilisées d'ores et déjà dans des réseaux de soins pour surveiller l'insuffisance cardiaque. Autre exemple, dans la même idée de suivre au domicile des patients transplantés pulmonaires, on a cherché à évaluer des objets capables, par exemple, de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, puisque le poumon sert à oxygéner le sang. Et on s'est aperçu que, selon le système utilisé par le téléphone, l'OS ou l'Android, la valeur était complètement altérée, ou pas. Ben, moi, je ne m'attendais pas à cette difficulté-là. Et en plus, selon la version de l'Android et la version de l'OS, ça marche, ça ne marche pas, ça transmet une donnée juste ou fausse. Et donc, faut-il évaluer tous les systèmes les uns après les autres ? Est-on en mesure d'évaluer tous les systèmes les uns après les autres ? La réponse est clairement non. Et puis, on sait aussi, voilà, donc vraiment des difficultés extrêmement importantes. Et la fiabilité, elle est au cœur du système. Puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, les intervenants précédents l'ont évoqué, il faut des données fiables pour alimenter l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle est intriquée avec les données qui l'alimentent. Et puis une donnée fiable, une donnée, elle est à la base de la décision médicale. Si la donnée est fausse, la décision médicale sera fausse. Et donc les questions sont majeures. Et puis, il faut aussi se poser la question de comment on se réorganise pour recevoir toutes ces données, en aval donc de même de l'évaluation de la fiabilité. Enfin, il ne faut pas mettre de côté, et pour nos tutelles, c'est extrêmement important, d'évaluer les aspects médico-économiques. La solution est peut-être fiable, pertinente, très intéressante, mais si elle est extrêmement chère, si elle n'est pas efficiente, eh bien, finalement, les tutelles n'auront pas intérêt à soutenir son développement ou son remboursement. Et puis enfin, Christina, et je ne reviendrai pas sur ces aspects-là, soulève l'équipe de Christina soulève des questions qui sont très importantes. Quelle réaction l'utilisation de tel ou tel objet dans telle ou telle pathologie va déclencher telle ou telle réponse sur le mode paranoïaque, anxieux, phobique, dépressif? Et ce sont des aspects qui sont très importants aussi dans la proposition que l'on va faire aux patients, ou dans l'utilisation au sein de l'équipe soignante de ces objets, parce qu'il y a des réactions en miroir de la réaction induite chez le patient. Alors l'objectif de cette plateforme est de fournir une évaluation multidimensionnelle. Les objectifs sont extrêmement ambitieux. En même temps, on est quand même assez humble par rapport aux difficultés auxquelles nous confrontons. L'idée est de proposer des évaluations à façon, selon dans tel ou tel registre, ou bien dans l'ensemble des registres, ou bien de comparer différents objets pour une même pathologie. L'idée étant non pas de bloquer, parce que de toute façon, on ne bloque pas un tsunami, mais d'accompagner, de canaliser, pour être sûr que ce qu'on va mettre à disposition de nos patients et de nous soignants, des objets qui soient sécures, fiables, utiles, pertinents et efficaces. Cette plateforme rassemble beaucoup de personnes et je vous remercie de votre attention.
Est-ce que vous m'entendez ? Tout le monde m'entend ? Super, merci. Donc je vais aller un petit peu vite, en fait, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais reprendre aussi certaines des choses qui ont été dites ce matin, ne faire référence à des intervenants qui ont, heureusement pour moi, finalement, déjà éclairé le chemin. Le sujet vaste, finalement, de la relation entre la santé, les données et l'intelligence artificielle, au regard donc de notions aussi vastes, l'opacité, la transparence, qu'on pourrait mieux définir. Daniel Métayer, je le remercie d'ailleurs d'avoir éclairé cette notion en la précisant ce matin. Moi, je vais garder l'idée, le vocable de transparence. On le prendra, avec les guillemets qui sont déjà présents sur la diapositive. Et dans le cadre peut-être simplement juridique, d'ailleurs. Pas dans toutes ces instances. Alors, je vais repartir à zéro un petit peu, si vous voulez. Je crois que c'est pas mal, en fait, de se forger tous ensemble une plateforme commune sur la notion, ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui. La personne de l'EPITA, ou je ne sais plus qui, a fait la mention qu'il y avait une cohorte de techniques aujourd'hui qu'on rassemble maintenant sous une dénomination commune. C'est un écosystème très vaste. Alors, ça va dire trop vite pour moi. Et qui aujourd'hui, donc, est essentiellement, repose sur la notion d'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique va absorber des données, cette intelligence artificielle va les transformer pour aboutir à des prédictions, de la classification, des estimations et autres. Et la différence par rapport au système ancien, et finalement qui fait aujourd'hui qu'on se pose tout un tas de problèmes en termes de transparence, est que jadis, donc, ces règles étaient émises par des experts, donc les systèmes experts venaient rassembler l'expérience de ces individus de manière donc claire et interprétable, mais limitée, ceci dit, à un petit nombre de paramètres, donc la complexité de ces systèmes était relativement limitée. Aujourd'hui, on a changé de modalité. Ces règles sont déduites d'un apprentissage automatique et surgissent donc d'un processus algorithmique. On les appelle aussi des modèles d'inférence. Je reprendrai ce terme par la suite. Et là, on passe à un autre registre, puisque alors qu'auparavant, on était limité par le nombre de paramètres, la dimensionnalité de l'espace et du problème qu'on pouvait se poser, aujourd'hui, on accède à un autre espace de complexité, où des millions de paramètres, on l'a vu, c'est compliqué d'expliquer les modèles, effectivement, c'est une des raisons pour laquelle cette complexité émerge, simplement la dimension de l'espace dans laquelle se représentent ces modèles d'inférence. Alors, modèle d'inférence, ça veut dire plein de choses, donc j'en listais quelques-uns juste pour aller très vite. Ça peut aller, donc Daniel Métayer le mentionnait tout à l'heure aussi, d'arbres de décision, des structures simples, plus facilement compréhensible. On verra que derrière cette notion de transparence, il y a des principes d'explication, d'interprétation, assez mal définis aussi. Mais voilà, un modèle relativement simple à expliquer. On pourrait utiliser, invoquer d'autres modèles plus géométriques, des machines à support de vecteurs qui vont essayer de séparer des catégories d'entités en trouvant des plans en fait, de séparation dans des espaces de grande dimension, là encore. L'objectif ici de l'algorithme est simplement de trouver la bonne ligne de démarcation entre deux catégories d'objets, les étoiles bleues et les points rouges. Et puis, bon, aujourd'hui, on parle essentiellement de réseaux de neurones, et je crois qu'il faut aussi attarder juste une seconde. Il n'y a rien de fantasmatique derrière ces objets-là, c'est simplement aussi d'autres formes d'algorithmes d'apprentissage qui vont arriver à leur tour à des décisions. Chacun des petits ronds, les ronds orange en tout cas, sur le diagramme, représente des neurones, inspirés des neurones biologiques, qui chacun opère des calculs très simples, finalement, et qui sont caractérisés par quelques paramètres, finalement. Donc le processus d'apprentissage consiste à fournir des images labellisées, ici il s'agit d'une image avec une lésion de la peau, et d'essayer de confronter la prédiction du réseau de neurones au label attendu pour cette image en particulier. Donc des individus ont déjà labellisé, dans ce cas on parle d'apprentissage supervisé, ces images, et on essaie de prévoir, on laisse l'algorithme tourner, et on compare la prédiction de l'algorithme au label manuellement assigné. Et l'idée est de faire tourner la machine et de changer la valeur des paramètres de ce réseau de neurones jusqu'au point où on atteigne un niveau satisfaisant d'efficacité lorsque l'erreur descend en dessous d'un certain seuil. Alors derrière ce modèle, il y a tout un tas de choix humains. On verra plus tard que l'humain est tout à fait présent. Il est présent au niveau de la structure de l'algorithme, de la structure du réseau de neurones, des paramètres d'apprentissage, la fonction de coût, etc. Il y a vraiment une présence forte en fait de l'humain. On l'oublie. Et ces systèmes marchent aujourd'hui très 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 bien, au point que lorsqu'on les applique donc à la classification de lésions corporelles, eh bien on atteint des niveaux de précision qui dépassent finalement ceux des médecins courants. Alors ça pose des vrais problèmes éthiques, parce que la question de savoir aujourd'hui s'il vaut mieux se faire soigner par une machine, alors ça passe tout seul pour moi, je ne sais pas pourquoi, qu'une machine qui calcule très bien, qui anticipe très bien la maladie, mais qui n'est pas forcément explicable dans les termes qu'on a vus précédemment, ou bien par un médecin qui sera capable de donner une explication, une justification, mais peut-être avec statistiquement une moindre efficacité. Donc un vrai problème de décision. Et c'est juste quelques exemples aujourd'hui pour vous montrer l'étendue d'application de ces algorithmes dans le domaine médical, alors quelque chose de très appliqué. On les retrouve beaucoup sur les images. Ça a été un des premiers points d'accroche en fait de cette nouvelle génération d'algorithmes de réseaux neuronaux profonds, Deep Neural Networks, qui fonctionnait très bien sur les images. On les retrouve dans le diagnostic précoce de lésions du sein, par exemple, de cancéreuses, dans la radiologie, mais aussi dans les signaux temporels, donc l'électrocardiogramme et la classification de fibrillation, je crois, je ne sais plus. Ouais, d'accord. Mais aussi dans des choses un petit peu plus subtiles, l'anticipation de par exemple, la maladie d'Alzheimer à travers la parole, la manière dont on parle déjà anticipe un tout petit peu contient des signes avant-coureurs d'une dérive vers la maladie d'Alzheimer, et ça on peut l'utiliser, on peut l'anticiper simplement en utilisant le téléphone. Vous parlez, vous avez une app, et elle, petit à petit, elle identifie ces signes avant-coureurs. Alors ça pose tout un tas de problèmes, on est bien d'accord. Mais on le trouve d'ailleurs aussi à l'hôpital, dans des processus de triage, donc d'identification des patients de routing, enfin à l'hôpital, donc en laissant des systèmes donc de dialogue automatique, poser des questions aux patients et selon les réponses qui sont obtenues, les orienter vers les urgences, par exemple, ou pas. Et bien sûr, la notion de télémédecine est présente, les patients deviennent acteurs de leurs propres décisions médicales d'une certaine manière, ou ils participent en partie, et on évoquera aussi cette notion d'interface. Là on voit une interface physique avec ce robot, mais le patient est déjà lui aussi partie prenante de cette décision. et puis jusqu'à des choses qui semblent plutôt amusantes quand on voit l'image donc ici au Japon d'une personne souffrant d'Alzheimer aussi, qui est accompagnée, on va dire, par une petite poupée, peluche, voilà, qui est animée, qui est d'une intelligence artificielle. Alors, il faut toujours faire très attention quand ce mot est évoqué là, mais qui semble aider les patients, d'une certaine mesure, à améliorer leur état. Alors, l'expressivité des modèles et la dimension sont liées. Et j'évoque cette diapositive ici qui me semble importante pour vous faire comprendre pourquoi on lie en fait aujourd'hui cette question de l'intelligence artificielle aux questions des données. C'est que les problèmes qu'on se pose aujourd'hui sont relativement complexes. Pour aborder et pour résoudre ces problèmes complexes, on a besoin d'une représentativité des modèles suffisamment riche. On invoque ces modèles dits profonds. Simplement pour réaliser l'apprentissage, pour obtenir un data satisfaisant de ces modèles profonds, on a besoin d'un grand nombre de données, en général. Des données, pas simplement en grand nombre, mais aussi de qualité. Et c'est une partie qu'on nommait quelquefois. Et ces données, aujourd'hui, dans le domaine médical, sont souvent des données personnelles. Alors, le régime des données personnelles est aujourd'hui encadré par le règlement général sur les données personnelles. On en a parlé ce matin à plusieurs reprises. Et à l'intérieur de cette définition un peu générale, que vous voyez dans l'article 4.1, on a aussi une précision sur les données sensibles qui contiennent en particulier les données médicales, les données de santé. Alors ces données sont réglementées par le règlement, donc, et une autre facette du règlement qui précise donc la nécessité, lorsque vous êtes sujet à un traitement automatique, d'en avoir conscience, de savoir que ce traitement automatique existe, et la possibilité d'accéder à une logique sous-jacente. Alors c'est là où l'idée de transparence va surgir pour une première fois, puisqu'on nous donne en principe la possibilité d'accéder à l'arrière-scène de cette mécanique de décision au modèle. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment accéder à cette logique? Et on va voir que lorsqu'on se pose la question d'y accéder, se pose une série de filtres. Et le premier n'est pas celui peut-être auquel vous pensez en premier, on parle souvent de boîte noire, mais la première boîte noire que je voudrais évoquer avec vous, c'est celle du secret des affaires, de la propriété intellectuelle. C'est une première étape finalement d'accès qui nous empêche. Ça semble un petit peu surprenant parce qu'on dirait effectivement qu'il y a un droit fondamental, le règlement sur les données personnelles en fait partie, et qui s'oppose à un autre droit, qu'on a, celui du secret des affaires, de protection du secret des affaires. Effectivement, le règlement pose cette notion que donc ce droit fondamental d'accès sur les données personnelles ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d'autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle. Donc, quel équilibre faut-il trouver entre ces deux régimes? Eh bien, ce n'est pas si évident. On penserait immédiatement que le droit fondamental des personnes l'emporte. Pas toujours le cas. Quelques décisions, alors encore rares en Europe, mais aux États-Unis beaucoup plus riches, montrent la difficulté de placer le curseur de manière univoque. Par exemple, dans cette décision, dans le cas où une requête avait été émise à la Cour fédérale de justice allemande, d'un accès à des informations personnelles lors d'un traitement algorithmique, eh bien, la décision de la Cour a été de ne pas révéler les détails au motif, effectivement, que ça mettait en péril le secret des affaires. Donc le secret des affaires a été placé au-devant du droit des personnes à obtenir des informations sur cette logique. Nous avons une directive européenne aujourd'hui qui a vocation à harmoniser ces droits autour du secret des affaires et qui précise que la directive ne doit pas porter atteinte à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, et notamment aussi dans les considérants au droit à la protection des données à caractère personnel, mais on n'a pas encore vraiment de jurisprudence qui vienne valider cet ordonnancement des régimes de protection, en particulier parce que finalement, ils ont tous deux à voir à des idées relatives à l'espace privé, celui de l'entreprise contre celui de la personne, donc le principe du secret contre le principe de transparence. Cet équilibre reste à définir, et à travers lui aussi, la notion accéder à quoi, finalement ? Est-ce qu'il s'agit d'accéder aux paramètres du modèle, au processus d'entraînement, aux données elles-mêmes? Des questions qui restent encore à définir. Donc même si on lève ce secret d'affaires et qu'on ouvre cette boîte noire, il y a une seconde étape d'interprétation. Alors je vais être un petit peu plus flou finalement que les définitions de Daniel de Métayer tout à l'heure, mais en fait il va s'agir d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe au moment de la décision entre les données et la décision. Et effectivement aujourd'hui on trouve beaucoup ces réseaux de neurones profonds qui sont effectivement formé d'un grand, grand nombre de paramètres. Il se déploie dans un espace qui ne se transpose pas facilement, dans un espace narratif, intelligible, pour nous, compréhensible. Et il faut essayer d'expliquer. Alors, lorsque on a affaire à un réseau qui a déjà été entraîné, il y a une phase d'explication qui consiste finalement à essayer de projeter cet objet très complexe dans un objet un peu plus interprétable que je vous ai introduit tout à l'heure, celui, c'est par exemple, des arbres de décision. Mais lorsqu'on fait ceci, eh bien, on traduit, on commet peut-être des erreurs de traduction, et il faut valider cette approximation. On peut utiliser même d'autres modèles d'inférence, d'autres modèles algorithmiques qui vont venir en chapeau valider cette traduction. Donc il y a une sorte d'effet de poupée russe dans lequel les modèles viennent valider les modèles, qui viennent valider les modèles. Ça devient très compliqué. Une seconde possibilité, c'est de choisir de ne pas opter pour un modèle trop complexe, mais d'opter dès le départ, ex ante, pour un modèle interprétable. Mais ce faisant, finalement, on choisit d'abord, il faut définir ce que ça veut dire interprétable, c'est une première chose, mais puis aussi, on est obligé de faire une sorte de choix entre l'interprétabilité et la précision du modèle. Veut-on un modèle efficace, qui nous donne les meilleurs résultats possibles, ou bien un modèle interprétable? On est un petit peu dans le même régime que celui de faire confiance au docteur, qui est probablement faillible, et faire confiance à un modèle statistique dont on a pu prouver techniquement, valider l'efficacité. Alors, cette explication, cette interprétation est importante dans le cadre de l'information du patient, bien sûr, qui est donc codifiée par le Code de la santé publique. Toute personne a le droit d'être informée sur son état, et les éléments de déontologie médicale impliquent que l'information doit être claire, appropriée, loyale. On voit bien que c'est compliqué aujourd'hui d'évoquer ces principes de clarté, de loyauté, lorsque les décisions sont assistées par ces objets bizarres, ces objets surprenants, pas bizarres, enfin bizarres, je m'en dis très, très vague, mais complexes que sont les modèles algorithmiques. Alors qu'avant, donc, l'information du patient suivait une ligne relativement directe entre le médecin et le patient, aujourd'hui, elle est intermédiée par un objet algorithmique, quelquefois éloigné dans les nuages, donc avec des problèmes de sécurité, bien sûr aussi de transfert d'informations, de théorie des jeux, hein, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois, le fait que le médecin peut être influencé par le caractère normatif, finalement, de la décision algorithmique. Il y a un caractère d'oracle, finalement. Hein. Ça a été démontré dans certaines situations, aux États-Unis en particulier, dans le domaine pénal. On a envie de faire confiance aux mathématiques. On y voit un caractère objectif. On a envie de faire confiance à cet objet algorithmique complexe, soi-disant. Mais effectivement, il est faillible. Il est soumis à des biais, on le sait, des biais qui sont issus des données. La fiabilité des données des patients, on l'a vu, peut dépendre du système d'exploitation. Donc, ce n'est pas du tout évident que ces données soient de bonne qualité. Et puis, elles dépendent de processus d'entraînement qui invoquent lui aussi toute une cohorte d'acteurs extérieurs largement à la compréhension et à la représentation interne de la décision émise par le médecin. D'autant plus que si on creuse davantage en amont, eh bien on voit que derrière cette relation patient-médecin, en creux, dans ce modèle d'inférence, il y a un ensemble d'étapes, le passage des données, les algorithmes d'apprentissage, les modèles d'inférence, qui invoquent donc des données d'entraînement, leurs choix, des choix de sélection, on a parlé de codage aussi ce matin, de représentation, c'est très important, on choisit ces données, on choisit de les représenter dans un certain espace de caractéristiques. On les augmente parfois, c'est très important dans le domaine médical où il y a une rareté des données, donc on fait des choix de modèles, d'augmentation, on a parlé ce matin aussi de cet aspect, en prenant les données d'imagerie cérébrale, faire des symétries par exemple, est-ce que le cerveau est symétrique, ça a été évoqué. Et puis au moment de l'apprentissage, des choix d'architecture, de paramètres et de validation, de déploiement au moment du modèle d'inférence. Donc tous ces choix existent qui sont forcément difficiles à saisir par le médecin, qui va quand même malgré tout devoir, c'est ça, sur le plan déontologique, c'est une nécessité, expliquer sa décision. Alors, le projet de loi relatif à la bioéthique qui est discuté en ce moment même, c'était le cas il y a quelques jours, évoque cette possibilité et cette difficulté, et la solution et l'interdiction, enfin sous la préconisation du Conseil d'État, d'un diagnostic établi uniquement par un système d'intelligence artificielle, sans intervention de médecin. On s'inspire là de la loi informatique et liberté qui reprenait les mêmes notions. L'article 11 de ce projet de loi, que je vous invite à regarder, c'est très intéressant, il y a tous les documents afférents aussi enrichissent ce débat, vise à sécuriser l'information du patient lorsqu'un traitement algorithmique des données massives, y compris donc l'intelligence artificielle, est utilisé à l'occasion d'un acte de soin, et il oblige à la garantie d'une intervention humaine. Alors, le patient doit être informé de l'utilisation d'un objet algorithmique, d'une intelligence artificielle, et aussi donc, des modalités d'action de ce traitement. Ce n'est pas encore exactement ce que ça veut dire. Par ailleurs, l'article 29 du projet de loi redéfinit des composantes de gouvernance, en particulier en élargissant le périmètre du Comité consultatif national d'éthique des sciences de la vie et de la santé, incluant donc le périmètre incluant maintenant les questions d'intelligence artificielle. Donc, au-delà de ces questions-là, on voit qu'on encourage un débat démocratique plus ouvert et à l'image du groupe qu'on forme aujourd'hui, je crois, pluridisciplinaire, qui ne se cantonne pas simplement aux médecins ni aux informaticiens, mais qui crée des ponts entre tous ces domaines. Je crois que c'est absolument essentiel aujourd'hui si on veut parler d'intelligence artificielle. On a tous une définition de l'objet. Elle n'est pas forcément symétrique, elle n'est pas forcément identique. On a besoin de faire ce travail de mise en commun. Alors, quelques questions ouvertes pour ouvrir le débat, donc quelques ouvertures maintenant. On a vu des problèmes d'interprétation. Faut-il choisir l'explication au détriment de la précision des modèles? De définition aussi, hein, faut-il être capable de justifier finalement la décision de l'algorithme? Et qu'est-ce que ça signifie vraiment? Parce qu'en fait, le problème de la causalité est essentiel. Les modèles algorithmiques statistiques ne parlent pas de causalité. Enfin, ils parlent de corrélation. Il n'y a pas du tout le principe de causalité est absent, finalement, de ces représentations. Des problèmes essentiels d'interface. Alors, dans le problème d'interface, il y a de nouvelles formes d'interface. On passe immédiatement à l'interface patient-médecin, patient-docteur ou équipe soignante. Au-delà de ces interfaces, maintenant, on voit surgir à travers ces nouvelles modalités techniques des formes d'involution, des formes de rapport des entités à elles-mêmes, du patient à lui-même. On l'a vu avec l'interface où le patient s'observe, hein, où on s'observe avec nos montres connectées, nos appareils, etc. Et du docteur aussi vis-à-vis de la décision. Je crois qu'il y a à l'intérieur de ce rapport du diagnostic, aujourd'hui, il y a un filtre, l'intermédiation algorithmique pose la question de la décision et interroge justement cette notion d'interface. L'interopérabilité, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que pour que ces algorithmes d'apprentissage fonctionnent, on a besoin de données en quantité suffisante pour pouvoir entraîner des modèles riches. Donc ça peut poser la question aussi du partage de ces données et avec le partage des données, des questions importantes d'anonymisation pour protéger les individus. L'appropriation des données aussi est une question importante qui reste complètement ouverte, je crois, aujourd'hui. Ça sera probablement débattu bientôt. L'augmentation, on l'a évoqué, la qualité et le biais associés aux données, on en a parlé à plusieurs reprises. Et puis, je n'ai pas parlé de responsabilité, mais c'est un vaste sujet parce que ça a été aussi discuté aujourd'hui, notamment dans le contexte d'une décision distribuée. On l'a vu, tous ces acteurs dans le pipeline, dans la séquence de décision, ont chacun peut-être une responsabilité dans la décision, dans la faute par exemple, et imputer la faute justement reviendrait à trouver, à identifier quels sont les acteurs pertinents qui sont la cause de cette erreur. Donc toute une cohorte de questions ouvertes et je nous invite nous à en discuter ensemble. Voilà, je vous remercie.
Merci. Bonjour, merci beaucoup d'abord pour la clarté de ces deux exposés. Donc moi je suis Sarah Cohen-Boulakia, je suis professeure à l'Université Paris-Sud en informatique et je vais être directrice du GDR MADIX, qui est donc le GDR du CNRS qui a été créé par la mission pour l'interdisciplinarité autour de la science des données. Voilà. Alors je voudrais réagir d'abord sur le premier exposé, parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit et qui a fait réagir la salle et que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le fait, le constat finalement, que les objets connectés, alors qu'ils donnent un certain résultat sur un certain téléphone, par exemple un iPhone, vont donner un résultat différent. Et ça fait réagir toute la salle, et ils ont bien raison. Par contre, lorsque l'on fait un essai clinique et qu'on prend deux patients au hasard et que là, ben, le même médicament va donner des résultats un peu différents, ça fait partie des choses qu'on accepte tout à fait. Et donc, je voudrais insister sur le fait qu'il y a aujourd'hui une problématique de ce qu'on appelle la reproductibilité computationnelle, c'est-à-dire finalement le problème que vous avez soulevé, qui est celui d'avoir la sensation que si on prend n'importe quel deux ordinateurs, en mettant le même programme dessus, on va avoir le même résultat. Mais quelque part, aujourd'hui, il faut arriver à réaliser que l'informatique est devenue complexe et que finalement, utiliser une même application sur deux téléphones différents, ça ne peut pas facilement vous donner systématiquement les mêmes résultats. C'est toute cette idée qu'on a en tête qu'un ordinateur, c'est déterministe, ça renverra toujours la même chose, ça fera toujours le même comportement. Alors, ça peut avoir des aspects stochastiques derrière, il peut y avoir ce type d'aspect-là, mais il y a aussi des choses très pragmatiques associées aux couches basses, justement au système d'exploitation qui est installé sur la machine, aux librairies qui sont utilisées par les programmes, etc. Et donc, justement, dans le GDR Madix, on a un groupe de travail qui travaille sur ces aspects de reproductibilité et de reproductibilité computationnelle, dans lesquels on a des informaticiens, mais alors... Qui représente en fait un spectre extrêmement large, depuis des gens qui travaillent sur les données jusqu'à des gens qui travaillent sur les couches basses, hein, qui vont justement travailler sur qu'est-ce qu'il faut garder comme trace, qu'est-ce qu'il faut s'assurer d'avoir pour assurer une reproductibilité au niveau computationnel. Voilà. Donc c'est plus une remarque, mais ça allait tout à fait dans le sens de notre groupe de travail. Du coup, voilà. Du coup, je voulais réagir.
Je fais un petit commentaire en réponse à votre commentaire, c'est-à-dire que quand même nos tutelles, enfin nous soignants, les patients à juste titre, et puis les tutelles, c'est quand même des objets qui, pour un certain nombre d'entre eux, vont prétendre à la prise en charge par la solidarité nationale. Et comment est-ce qu'on fait pour évaluer la fiabilité, sachant que l'objet va être utilisé avec des systèmes différents? Et donc, alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut acheter un téléphone et fournir, une tablette, donnée pour tel objet et puis une autre pour tel autre objet. Enfin, c'est absolument vertigineux.
Oui, mais concrètement, c'est un peu comme les patients. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à dire on va prendre tous les génomes possibles des différents patients. C'est-à-dire que c'est finalement au fournisseur ou en tout cas à une entreprise, si j'ose dire, enfin, ou un consortium extérieur, d'assurer que le système a été testé sur un certain nombre de plateformes, qu'ensuite vous puissiez vous refaire ces tests si vous voulez les refaire. Mais... quelque part, aujourd'hui, ce dont on manque cruellement, c'est finalement des protocoles de tests qui soient associés à ces objets connectés, qu'on sait très bien faire dans tout ce qui est justement tests de médicaments, et où il y a un vrai manque aujourd'hui sur ces objets connectés.
Mais c'est une des étapes de cette évaluation, effectivement.
Être vraiment pas intéressant, mais je voulais vous remercier tous les trois. Et aussi, ça m'a... à la fois surpris et rassuré d'apprendre que les neurones, les réseaux de neurones profonds sont aussi simples que ça. Parce que moi, pour les peu que j'ai exploré, c'est pas forcément ce que j'ai cru comprendre. Et comme il me semble qu'il y a peut-être des collègues qui sont aussi, je me tourne vers les personnes qui ont posé des questions ou, par exemple, sous ces, algorithme généré par d'autres algorithmes qui apprennent tellement et finalement dont on sait très peu, mais pas au niveau de l'explication, mais bien en amont. Et donc, voilà, est-ce que, par exemple, c'est si vrai que finalement, on gère des données si simples que les opérations sont aussi peu complexes et que finalement, on peut l'assimiler à quelque chose de juste avec un strat en plus. Mais j'ai dit ça en connaissant toutes les difficultés. On en a parlé dans l'autre groupe hier matin, qu'on a, nous, enfin, en tout cas que j'ai, moi, vis-à-vis de ces autres un peu composantes et éléments constitutifs de ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle. Donc, juste comme ça, si quelqu'un peut éclairer l'antenne, parce que je pense que c'est quand même quelque chose en amont de tout un système décisionnel dans ces champs-là, mais dans celui des choix juridiques et d'autres types de régulations au même titre. Et puis, par ailleurs, ça intéresse beaucoup la création artistique et autres types de création. Merci.
Il y a une question là au fond.
Juste pour préciser qu'effectivement, quand je dis que c'était simple, c'est pour aussi faire écho à cette complexité annoncée derrière laquelle on peut aussi se cacher. Et je crois que l'objectif des techniciens que nous sommes, en fait, ici, parmi nous, c'est aussi d'essayer d'expliquer, de lever le voile sur cette complexité et de préciser davantage où elle se situe et d'être le plus précis possible. Quand je dis qu'un réseau neuronal n'est pas compliqué, je pense qu'effectivement, c'est 10 lignes de code. Très honnêtement, c'est rien. En fait, de point de vue algorithmique, c'est pas compliqué. Faire comprendre un réseau de neurones à n'importe qui, il n'y a aucun problème sans bagage mathématique. Donc la complexité n'est pas là, en fait. La complexité n'est pas dans le modèle. La complexité est dans le produit, le modèle d'inférence, et la traduction de ce modèle d'inférence en des caractéristiques qui nous soient intelligibles à nous dans les modalités de symbolique, de langage, qui nous sont familières. Et c'est un champ d'études à ouvrir, je crois, enfin qui s'ouvre maintenant, je crois, du fait de la présence de ces nouveaux objets un petit peu partout, le rapport que Daniel Le Métayer évoquait fait partie de ce travail, je crois. Mais il faut bien, enfin, il faut pas, je crois, il faut pas avoir peur des réseaux de neurones. En tant qu'objet conceptuel, c'est pas des mathématiques, c'est pas des théories, c'est très appliqué, et relativement simple à expliquer avec quelques exemples. Alors je peux pas le faire trop avec les mains là, ça prendrait quand même quelques minutes, mais je peux vous assurer qu'il y a pas de problème pour en saisir la nature et justement se défaire un petit peu de cette appréhension pour aller pour se concentrer là où ça compte.
Oui, mais voilà, c'est ça. Mais je pense, vous venez de dire, parce que ça produit de la fascination. Et c'est là où la question se pose, parce que ce sont des objets à la fois des objets simples, mais qui, comme ils sont utilisés par des êtres humains qui ne sont pas si simples que ça, qui sont beaucoup, qui sont aussi habités par des mécanismes qui leur échappent à eux-mêmes. Donc ces objets, du coup, ils sont enveloppés aussi par des représentations assez énigmatique, voilà. Et c'est pour ça que la question devient du coup complexe. Ça, c'est la complexité, elle s'installe dans un au-delà de l'objet lui-même. Et c'est là où je pense que les sciences humaines et sociales, elles deviennent très intéressantes à participer de la discussion, parce que il y a des éléments propres à l'être humain qui interfère en fait dans la conception et l'appropriation de l'objet. Alors, bon. Il y avait une question. Oui.
Bonjour, Nicolas Bayat-Lafitte, Université de Lausanne. J'ai une question double en fait. La première concerne le conflit entre secret industriel et accès à l'information. Je me demandais dans quelle mesure le droit des technologies informatiques, du numérique, peut apprendre du droit de l'environnement, compte tenu des différences, et ça va être ma deuxième partie de la question, mais les conflits autour des évaluations d'impact sur l'environnement, c'est un cas typique où dans les évaluations d'impact, on présente une série de précisions sur le projet, mais elles ne sont jamais assez suffisantes pour pouvoir, par exemple, reproduire les modélisations qui ont donné un tel résultat des dispersions de la pollution et qui, in fine, légitime un projet. Et donc, je me demande dans quelle mesure le droit établi, par exemple, dans ces arrêts, l'arrêt qui a été évoqué en Allemagne, s'il y a des raisonnements croisés dans les deux domaines, ce qui est une question qui m'intéresse. Mais deuxièmement, compte tenu de la spécificité des algorithmes du numérique, dans quelle mesure toute tentative d'explicitation ne va pas sortir in fine à la question de l'opacité intrinsèque irréductible, même si on tente d'expliquer, de traduire, de faire ces types de traductions. Et là, la critique, effectivement, des sciences sociales peut venir à essayer de séparer les différents types d'opacité. Il y a un article qui devient incontournable actuellement, c'est celui de Burrell dans Big Data and Society, qui distingue trois types d'opacité, et notamment l'opacité de question d'accès qui a été traitée Black Box Society le met en avant, mais il y a cette autre opacité du type de raisonnement non humain, qui est illustré par l'exemple très simple du spam, des algorithmes de triage du spam. On ne peut pas expliquer comment finalement un tri a été effectué, etc. Et donc voilà, c'était ça ma question. Merci.
Alors, je trouve ça très intéressant, l'utilisation d'autres domaines juridiques au support finalement de l'exploration et de la définition des champs de protection dans le domaine algorithmique. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemple, à ma connaissance en tout cas, de cette référence au domaine environnemental pour venir contribuer à enrichir le débat. Donc c'est quelque chose aussi qui reprend ce que la personne de Madix évoquait juste avant, en fait l'accès à une plateforme pour tester ces modèles, qu'est-ce que ça veut dire de reproduire, d'évaluer finalement lorsqu'on n'a pas accès aux données, par exemple. Les données sont aujourd'hui très secrètes. Dans le domaine pharmaceutique, c'est un grand problème d'accéder à ce support de base à partir duquel le modèle naît. Et finalement, ça a été dit aussi aujourd'hui, le modèle n'est que l'évocation finalement en creux de ces données, simplement parce que l'interface algorithmique est relativement facile à saisir. Donc il contient quelquefois à l'excès d'ailleurs l'image de ces données d'entraînement, surentraînées par exemple, mais elles sont présentes. Donc, et si on n'a pas accès à ces données, comment tester, comment reproduire voilà, donc c'est un vrai souci. Et Donc, et la deuxième, pardon, j'ai perdu le fil.
C'était sur la qu'est-ce qu'on fait avec l'opacité intrinsèque, si les sciences sociales peuvent contribuer en distinguant les types d'opacité, et que, voilà, quelle critique reste possible?
Je crois que ça a été dit par Christina aussi, cette dimension justement de, en couche. La description ce matin encore de ces niveaux, finalement, entre l'idée d'une transparence qui est simplement le fait d'accéder aux données, de les montrer, de l'explication, donner des raisons, et puis après de justifier, de dire ce qui est bien ou mal à partir de ces raisons. Voilà déjà des couches finalement plus conceptuelles qui viennent encadrer la notion de transparence, d'explication aussi. Et puis l'article de Genève Burrell, par exemple, que vous mentionniez, qui est très intéressant, qui vient aussi montrer le rapport entre différentes facettes du droit, la propriété intellectuelle, et puis ces différentes modalités d'interprétation de la notion d'explication des modèles algorithmiques. Donc je crois que c'est un vrai débat dans lequel, justement, il faut faire intervenir les sciences humaines, parce qu'elles vont éclairer des concepts qui échappent à la fois à l'objet mathématique, la notion de causalité. Je conseille Judea Perle, par exemple, qui est un des grands pères de cette notion de causalité dans le domaine statistique, le précise, elle n'appartient pas à l'objet statistique, elle est à l'extérieur de l'objet statistique. Et à l'extérieur, peut-être le mathématicien n'a pas toujours les meilleurs moyens, les meilleurs outils pour disons, évoquer ces notions. Donc là, on voit bien la nécessité d'un dialogue.
Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup. Vous avez compris qu'il y a tout un champ à explorer que nous essayons de développer dans notre groupe. Et voilà.